Madame la Présidente, Mesdames les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires et présidents d'intercommunalité, Mesdames et Messieurs les élus, régionaux, départementaux ou municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre. Alors, la période de réserve vous aurait épargné un long discours, mais qui dit période de réserve dit période de disette, alors faut prendre des forces, et normalement, vous devriez être repu à l'issue de ce discours. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je suis très heureux d'être là pour la première fois parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce rendez-vous annuel, important, fondamental même, de la vie démocratique et institutionnelle de notre département. Je connais l'importance de ces réunions pour les avoir pratiquées sous d'autres latitudes avec vos confrères ultramarins pendant plusieurs années. J'en mesure les attentes, tout comme je mesure l'importance au quotidien de votre rôle, souvent difficile mais si fondamental pour la vie de notre République. Rôle parfois décourageant, c'est vrai que c'est un signal inquiétant de voir tant de maires jeter l'éponge. Ça traduit probablement un malaise qui n'est pas que ponctuel, lié à des difficultés personnelles, mais une vraie difficulté de fond, d'autant plus importante que ce rôle, comme celui des élus en général, et de tout ce qui représente, de tout ce qui incarne la République, est aujourd'hui bousculé dans l'environnement social mouvementé qui est le nôtre, et dans lequel, au quotidien, vous tenez bon, comme le font les services de l'État et des différents pouvoirs publics. Je veux chaleureusement remercier Madame la Présidente de l'Association des maires de son invitation, qui a aussi pour effet de permettre aux services de l'État, ici présents avec moi, d'échanger avec les élus dans cette configuration très large où tout le département est représenté. Merci à vous, Monsieur le Président du Conseil départemental, pour votre invitation à déjeuner, que je vais essayer de ne pas retarder indûment. Le président de la République s'est exprimé la semaine dernière dans le souci d'apporter des réponses fortes et structurelles aux attentes de nos concitoyens. J'y reviendrai, si vous le souhaitez, peut-être après cette intervention et à votre demande. Dans ces moments, quelles que soient ces annonces, je suis intimement persuadé que l'action de l'État n'aura d'efficacité que conjuguée à celle des collectivités et des élus du terrain. Après la séance de travail de ce matin, c'est un moment convivial qui nous attend à présent, mais avant d'en profiter, les interventions qui ont eu lieu tout à l'heure et qui viennent d'avoir lieu à l'instant m'invitent à souligner plusieurs messages que je voulais partager avec vous. Toute cette matinée, et à l'instant encore, j'ai entendu la demande d'un État attentif à l'écoute des territoires, un appel à une action publique réellement décentralisée et déconcentrée, partenariale, un appel à un service public plus proche des territoires et d'un État plus présent encore. Cette réalité d'un État proche des territoires et des problématiques de terrain échappe souvent aux grands textes nationaux ou aux circulaires et donne toute son importance à l'action de l'État local. Je le mesure personnellement et avec humilité chaque jour. Cette posture que je veux être la mienne en tant que préfet depuis ma prise de fonction dans ce territoire, c'est aussi l'attitude quotidienne du corps préfectoral, du secrétaire général qui est présent ici, de la sous-préfète d'Argelès-Gazost qui fait également l'intérim de la sous-préfète de Bagnères et de la directrice de cabinet, Sophie Posa, qui elle était présente également. Donc chacun des membres du corps préfectoral, mais plus généralement, à l'ensemble des représentants des services de l'État. Il faut que nous ayons cette attitude commune comme règle de conduite à votre endroit comme envers l'ensemble de nos concitoyens. Bien entendu, le dire c'est simple, le faire c'est parfois plus compliqué, le défi est souvent difficile à relever parce qu'il faut conjuguer une application juste de la règle qui doit être la même pour tous et son adaptation aux circonstances locales quand c'est nécessaire. Et dès qu'on rentre dans cette logique, vous le savez aussi bien que moi, on crée des marges de manœuvre, mais on crée aussi et on ouvre aussi des débats et parfois de longues discussions. Je suis prêt à en prendre le risque parce que je suis persuadé des bienfaits du dialogue et de l'échange. Vous le savez, les portes de la préfecture et des sous-préfectures vous sont ouvertes. Je vous invite à y venir pour nous saisir de vos différents sujets. Nous ne serons pas toujours d'accord, mais il est essentiel de pouvoir nous écouter Et vous avez aussi, en la personne de votre présidente d'association, de vos parlementaires en général, ou du président du conseil départemental quand c'est nécessaire, des personnes qui sont des relais et qui savent se faire entendre et relayer vos préoccupations. Je souhaite un État attentif et qui vous accompagne. Tout d'abord, d'un point de vue juridique, en amont du contrôle de légalité, qui bien souvent sanctionne par une lettre d'observation des échanges qui ont manqué en amont, pour sécuriser juridiquement vos décisions et vos délibérations, sachant que vous n'avez pas toujours tous les moyens de cette expertise. C'est un travail important qui est mené par la préfecture, les sous-préfectures, les directions départementales, DDT, DDCSPP, l'unité départementale de la DREAL, de la DIRECT ou de l'ARS, dans un département où l'on sait que certaines associations sont friandes de contentieux. Nous en discutions avec un certain nombre d'entre vous avant de monter sur ce podium. Alors c'est vrai que les réponses qui vous sont adressées peuvent parfois donner le sentiment d'être strictes, d'être rigides, parce que chacun fait son travail finalement. Il est parfois nécessaire, et ça n'est pas un problème, de s'en reparler. Avec plusieurs d'entre vous, nous avons déjà expérimenté ce mode de travail qui ne consiste pas à faire du préfet une instance d'appel contre les décisions ou les propositions de décision de l'administration, mais plutôt de son bureau, un lieu dont peuvent émerger des solutions partagées. L'accompagnement de l'État, nous le disons ce matin, il doit être aussi financier. Je ne reviens pas sur les propos que nous avons eus tout à l'heure. Je veux juste rappeler les principes. Une dotation globale de fonctionnement globalement en hausse pour l'ensemble du bloc communal et intercommunal, et un soutien à l'investissement au travers de la DETR, de la DECIL, qui ne faiblira pas en 2019 et continuera à vous accompagner dans vos projets de développement. Et je souligne à nouveau, sur la DECIL, l'effort exceptionnel consenti par le préfet de région la semaine dernière, qui a accepté, lors de son déplacement, de majorer de près d'1 million d'euros l'enveloppe initiale du département. Je voudrais saluer aussi le travail d'écoute fourni par les services de l'État aux communes en 2018, aux communes qui ne comprenaient pas les évolutions qui pouvaient paraître erratiques de leur DGF, évolutions qui vous pénalisent aussi, puisque l'information arrive parfois, voire souvent, après le vote des budgets. Comme je m'y suis engagé devant les représentants des maires le 16 avril dernier, le secrétaire général de la préfecture et la direction des collectivités locales sont à votre disposition pour comprendre et expliquer ces évolutions. N'hésitez pas à les saisir. Conjuguer une application intelligente de la norme et une attention à son cadre financier, c'est cette logique, nous le disions ce matin, qui a guidé notre réponse aux difficultés rencontrées par un certain nombre de communes dans le financement de la mise aux normes de leur STEP. Ce n'est pas uniquement un sujet financier. Les réponses qu'on a apportées ce matin, pas de collectivité dans l'impasse. On recherche au cas par cas des solutions pour les aider avec les instruments de l'Agence de l'eau, les prêts de la Caisse des dépôts, le remboursement des intérêts. En dernier recours, une aide financière de l'État quand c'est nécessaire, au cas par cas, et pour que les choses ne se reproduisent pas, une pré-mise en demeure par le préfet qui donne l'occasion à chacun de se mettre en situation d'être à nouveau éligible aux aides de l'Agence de l'eau. C'est pas uniquement un sujet financier, pour moi c'est un sujet de méthode. Vous nous saisissez d'une problématique qui concerne un certain nombre d'entre vous, on recherche en responsabilité et avec l'ensemble des acteurs concernés et compétents des solutions pragmatiques. Elles ne sont jamais magiques, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, mais elles peuvent répondre à des situations globales, partagées, et il me semble que c'est la bonne façon d'avancer. En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité faire autour de cette décision, auquel on a accordé un poids important, parce qu'elle nous paraissait symbolique, et devoir incarner la méthode qu'on veut porter et qui maille ce long propos. Un État attentif, c'est aussi finalement ce qu'ont demandé nos concitoyens, et ce qu'ils demandent depuis plusieurs mois, parfois avec virulence. Mais je voulais à ce titre remercier l'ensemble des élus locaux, des élus du territoire, en particulier les maires bien évidemment, pour leur participation et leur engagement dans l'organisation du grand débat qui s'achève dans les Hautes-Pyrénées comme ailleurs, et ce département n'a pas à rougir de sa mobilisation, en particulier grâce à votre action. Finalement, les Français ont massivement pris part à cette grande consultation et dégage une demande qui traduit un immense besoin de justice et d'équité, pour reprendre les propos du Premier ministre, sous forme de baisse d'impôts, d'actions fortes face à l'urgence climatique, de services publics plus présents et d'une exigence de démocratie. Cela m'amène au deuxième message que je voulais formuler devant vous. Nos concitoyens et tous les élus que j'ai rencontrés sont dans l'attente d'une action publique, notamment de l'État, moins descendante, moins imposée, mais co-construite et partenariale. Alors on ne part pas de rien. Cette démarche, elle est déjà à l'œuvre dans un grand nombre de dispositifs qu'il faut étendre et mieux faire connaître, en matière de sécurité notamment. Tout d'abord, la lutte contre la délinquance n'est pas que le travail de la police et de la gendarmerie. Elle doit s'appuyer au quotidien sur une participation active des élus locaux, notamment dans le cadre des CLSPD et des contrats intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ou encore l'ensemble des conventions police municipale, police nationale et gendarmerie qui sont régulièrement signées dans ce département. Je veux saluer le travail des forces de sécurité, police, gendarmerie, très sollicitées en ce moment et qui restent présentes au quotidien de nos concitoyens, mais également celui de la direction des sécurités au cabinet, à la préfecture et de sa directrice de cabinet, Sophie Posard, pour leur action en matière de lutte contre la délinquance, la radicalisation ou l'insécurité routière. Mais dans ce domaine, la coopération avec vous, élus de terrain, est essentielle. Et le maire est un maillon déterminant pour la sécurité des territoires. Cette co-construction, nous allons continuer à l'encourager par le biais d'outils financiers, notamment FIPD, Prévention de la délinquance, et DETR, et nous y consacrerons à nouveau des moyens importants en 2019. Et nous allons vous proposer de franchir ensemble une étape supplémentaire au cours du mois de juin, avec la présentation par M. le directeur de la Sécurité publique, le commissaire syndic, et le colonel Étienne, commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, du bilan et des perspectives de la politique de sécurité au quotidien, la fameuse PSQ, dans le département. Vous le verrez, ce sont des actions très concrètes qui vous seront proposées et pour lesquelles on utilise le temps qui nous sépare du mois de juin pour échanger, notamment avec les représentants des communes concernées, afin de préparer des annonces et une politique de sécurité très concrète, très efficace, on l'espère, avant la coupure estivale. La sécurité, c'est aussi celle des biens et des personnes contre les risques naturels et industriels. Vous appelez notre attention, Monsieur le Président Pellieu, sur ce sujet ce matin lors de votre intervention. Les maires y jouent bien évidemment un rôle essentiel, comme le rappellent malheureusement et trop souvent les événements climatiques qui affectent ce département, via les plans communaux de sauvegarde notamment, qui concernent près de la moitié des communes du département. Pour cela, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur la préfecture. La planification, c'était aussi celle des plans de prévention des risques et des plans particuliers d'intervention, des PLU, des PLUI, des SCOT, et dans tous les choix d'urbanisme que vous avez à faire au quotidien. Aujourd'hui, fort des connaissances et de l'expérience malheureuse des derniers drames qui sont intervenus sur le territoire national au cours des dernières années, plus personne ne comprendrait que l'on puisse autoriser des constructions sur certains espaces à risque, et nous mesurons très bien la pression qui est la vôtre dans ce domaine. C'est d'ailleurs cette préoccupation, nous en parlons ce matin, qui nous a conduit à demander à la Direction départementale des territoires et au BRGM une étude approfondie des cavités naturelles qui parsèment le département. Ce sont des cavités souterraines qui font de certains endroits du territoire un gruyère, qui présentent des risques d'effondrement. L'objectif, ce n'est pas vous donner une circulaire de 30 pages en vous disant « merci de l'appliquer, voilà les zones à risque et bon courage », c'est d'essayer de se mettre en mesure, par cette étude approfondie, de vous donner une vision très précise de la présence, de l'ampleur et de la profondeur des cavités souterraines pour guider vos choix d'urbanisme en demandant des études de sol approfondies lorsqu'il y a un risque. Et de vous présenter cette démarche, nous le ferons avec l'Association des maires, dès que l'étude sera réalisée, plutôt que de vous adresser une commande verticale que personne ne comprendrait, parce que c'est aussi des contraintes supplémentaires. Prévenir les risques, c'est aussi le sens de la décision du gouvernement qui vient de donner son feu vert au financement d'une étude par RTM, alors c'est le réseau des travaux en montagne, je crois, des études donc nécessaires à la bonne compréhension des risques de glissement de terrain à Villa. Il y en a pour près de 50 000 euros. Cette étude sera conduite dans les prochaines semaines et cela répond à une demande qui était faite ce matin. Nous voulons aller plus loin, l'étude des risques en matière d'avalanche, l'étude des risques en matière d'éboulement sur certaines routes, notamment la route des Gorges de Luz dont on connaît la dangerosité. Nous savons que c'est une priorité partagée. J'ai envie de dire, si les financements l'étaient aussi, quelque part, ça irait plus vite pour faire ces études. Je mesure parfaitement qu'il peut y avoir des oppositions au principe sur ce sujet, mais régler les questions de principe en matière de responsabilité de financement des études est parfois un peu long. et nécessite des délais qui s'accommodent mal de l'urgence à agir. Je ne doute pas que cette aimable invitation trouvera preneur. Territorialiser une action partenariale, c'est aussi cette conviction qui anime nos projets 2019 en matière de requalification des centres-villes et de rénovation urbaine. Vous le savez, les contrats Action Cœur de Ville signés en septembre dernier avec Tarbes et Lourdes ont déjà été financés par l'État à hauteur de 600 000 euros l'année dernière et le seront à hauteur d'au moins 700 000 euros pour l'année qui vient. 2019 doit aussi être l'année de renouvellement des contrats de ville avec Tarbes et Lourdes, et je n'oublie pas les communes limitrophes dans Juillan, Aurillan, qui sont potentiellement concernées par cette démarche quartier de ville, dont les résultats sont d'ores et déjà très positifs et à mettre à l'actif de la qualité du travail du groupement d'intérêt public, le GIP, politique de la ville, qui allie en son sein et met ensemble les forces et les énergies de l'État, du département et de la communauté d'agglomération. 2019 doit aussi être, et nous y mettrons toute notre énergie pour ce qui concerne la préfecture et les services de l'État, l'année de conclusion des conventions NPNRU, donc renouvellement urbain, pour ces deux villes, Tarbes et Lourdes, entraînant des opérations ambitieuse de démolition et de reconstruction qui se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement qui profiteront aussi au dynamisme du territoire et de ses entreprises, notamment dans le champ du BTP dont vous connaissez l'importance pour l'emploi ici sur le territoire. Cette dynamique de contractualisation où on agit ensemble porte ses fruits et nous l'encouragerons en 2019 dans tous les domaines, notamment en matière d'insertion sociale, de lutte contre l'exclusion et le chômage à travers plusieurs outils tels que le plan de lutte contre la pauvreté, qui devrait être signé avec le conseil départemental avant la fin du mois de juin, les appels à projets pour insérer dans l'emploi ce qu'on appelle les publics invisibles. Il ne s'agit pas que de publics qui sont situés dans les quartiers politiques de la ville. Les invisibles, c'est aussi tous ces jeunes qui sont en déshérence dans les communes rurales et éloignées des centres urbains et qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas assez. C'est aussi notre feuille de route pour l'intégration des personnes réfugiées, ou encore le plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme, un barbarisme. Grâce au partenariat avec l'ensemble des élus de terrain, les associations, les communes, les services dans l'État dans le 65 me semblent avoir acquis une véritable efficacité dans le traitement de cette problématique de la lutte contre le sans-abrisme et le logement d'abord. Comme l'illustrent d'ailleurs les résultats de la CAPEX, ces commissions de prévention des expulsions, dans le département, organisé par la DDCSPP et le conseil départemental, qui permet d'éviter dans plus de 9 cas sur 10 l'expulsion de ce logement de la personne qui en est menacée. Cette mobilisation, elle permet à tous les pouvoirs publics d'œuvrer ensemble à des priorités partagées, dont nous voyons l'importance notamment dans le domaine économique. La Télec, dans un passé récent, Altifor et Toupneau plus récemment, les combats quotidiens pour préserver l'emploi et l'activité nous rassemblent. Et je veux à ce titre saluer l'action de la sous-préfète d'Argelès, de l'unité départementale de la Directe et le soutien de l'ensemble des collectivités et leurs élus dans ces batailles difficiles. Mais il ne doit pas s'agir que de réagir ou de protéger. Il doit s'agir aussi de construire l'avenir économique du territoire. C'est tout le sens du projet Territoire d'Industrie, dispositif partenarial que le gouvernement a engagé et dont il a souhaité que le pilotage soit partagé, décentralisé, avec les élus de terrain et le conseil régional qui est pilote de la mise en œuvre de cette initiative. Il y a 134 territoires d'industrie, il y en a deux dans le département, deux territoires qui concernent Lac, Pau, Tarbes pour l'un et Comminges et Nest pour le second, qui dépassent les frontières administratives du département, pour embrasser des histoires industrielles, leur redonner de la vie et favoriser des partenariats entre acteurs économiques, la mobilisation de moyens conséquents de l'État et des collectivités en faveur d'investissements innovants qui doivent être créateurs d'emplois pour redonner de l'élan industriel à ce territoire qui le mérite et qui le peut surtout. Carole Delga a salué à Carcassonne le 11 mars dernier avec le préfet de région le territoire d'industrie Lac, Pau, Tarbes comme le plus avancé d'Occitanie. Des financements importants, dont 400 000 euros, viennent d'être annoncés par le préfet de région pour en accompagner la mise en œuvre. Là encore, la préfecture a pris discrètement mais efficacement toute sa part dans la conduite de ce projet et je souhaite en remercier tout spécifiquement M. Samuel Bouju, le secrétaire général de la préfecture et l'ensemble de ses services qui sont pour une large part à l'origine de cette réussite naissante. Mesdames et messieurs les maires, l'action partenariale contractualisée, cela doit être une réalité de l'action publique aujourd'hui et doit être renforcée demain dans le cadre de la nouvelle étape de décentralisation qu'a annoncé le président de la République lors de sa récente allocution, et notamment par le principe de la différenciation territoriale. Mais le corollaire de cette territorialisation de la République, cela reste aussi de gagner en lisibilité, vous l'avez beaucoup souligné ce matin, dans la répartition des compétences et d'éviter les doublons dans le millefeuille institutionnel. C'est bien l'objectif de la loi NOTRe, en spécialisant notamment les compétences entre les départements et les régions et en renforçant l'échelon intercommunal. Je ne mésestime pas l'ensemble des difficultés que vous avez soulevées ce matin. Elles sont réelles, il faut y trouver des réponses. Un certain nombre pourront l'être ici, comme on l'a vu sur des cas particuliers. Plus globalement, c'est un débat national que porte l'association des maires et qui sera traité en son temps au niveau approprié. Néanmoins, il y a des choses qui peuvent se régler localement. Je prends deux exemples particulièrement importants à notre sens. D'une part, la préservation des ressources en eau que vous avez abordées ce matin. Monsieur Cazobon, notamment, est intervenu sur ce sujet. Il nous appartient collectivement de mener des actions ambitieuses de lutte contre la pollution des eaux. Nous allons nous réunir prochainement sur ce sujet, par le nitrate notamment, et de lutte contre les inondations, vous l'avez évoqué ce matin dans la présentation de l'Agence de l'eau, mais aussi de création de nouvelles capacités de stockage ou de partage de la ressource en eau. Nous avons engagé un travail en ce sens dans le cadre du projet de territoire R en... Alors, amont... R en... Je n'arrive jamais à mettre les trois A dans le bon sens. Il y a R, amont et adour. Les spécialistes sauront de quoi je parle. Ce projet, il est long, il est important, il a du mérite, mais il prend du temps. Sans attendre, nous avons engagé des travaux avec les services de la préfecture de région, notamment en lien avec la Chambre d'agriculture qui a fait un certain nombre de propositions dans ce domaine, et nous allons nous attacher à essayer de faire avancer concrètement, localement, les solutions dans les meilleurs délais. D'autre part, la lutte contre l'artificialisation des sols. C'est, je crois, l'équivalent d'un terrain de rugby par commune qui disparaît chaque année, des terres agricoles, au profit de l'étalement urbain. Il est impératif d'assumer dans ce domaine des choix courageux. Nous savons qu'ils peuvent être contraignants pour vous, qu'ils provoquent souvent aussi des réponses de la part des services de l'État que vous jugez injustes. Mais c'est pour nous une priorité que de lutter contre ces 1500 hectares qui ont disparu entre 2005 et 2015 dans le département, alors que d'autres solutions seraient possibles. Dans ces deux exemples, ça n'est pas uniquement l'État qui est en jeu ou la commune, c'est aussi le niveau d'intercommunalité élargie qui se révèle le plus pertinent pour planifier et agir. Et même les syndicats regroupant plusieurs intercommunalités, comme c'est le cas pour le projet de territoire, pour le projet de gestion d'eau de l'Adour amont, dont l'objectif est de s'attaquer résolument au déficit quantitatif de ce bassin, les intercommunalités y ont toute leur place. Certes, il n'est pas évident que tous les maires de ce département aient applaudi la nouvelle carte intercommunale, mais la question qui a été posée aujourd'hui, ce matin, dans nos travaux, ne porte pas tant sur la diminution du nombre de syndicats ou de structures intercommunales que sur celle des moyens qui leur sont alloués pour travailler. Là encore, je ne reviens pas sur ce que nous sommes dit sur la DGF et les aides à l'investissement. Vous avez raison, Madame la Présidente, l'aide à l'investissement est essentielle. Nous avons apporté des réponses sur ce sujet pour ce qui concerne l'État et vous pourrez compter sur notre soutien en 2019. Le troisième et dernier message, rassurez-vous, on approche de la fin, que je voulais vous porter aujourd'hui concerne les demandes de services publics plus proches des territoires, d'un État et de collectivités locales plus présents encore aux côtés de nos concitoyens. Là encore, cela a été abordé ce matin. Nous avons une injonction un peu contradictoire à traiter, de baisser la dépense publique tout en renforçant l'offre de services publics. Alors notre défi commun ne peut être que de jurer par la modernisation de la présence territoriale de ces services publics pour essayer de maintenir un contact humain et un accès effectif de tous, les usagers, à ces services. C'est particulièrement vrai dans ce département, qui se vit aujourd'hui, et je comprends pourquoi, comme un territoire périphérique à certains égards, par rapport à Toulouse, par rapport à Paris. C'est particulièrement vrai ici, et cela doit nous préoccuper et doit nous conduire à apporter des réponses. Depuis plusieurs années, nous mettons en œuvre des réponses au travers des maisons de services au public. C'est une réponse pertinente, mais elle doit être améliorée et amplifiée. Je m'en étais ouvert à vous lors des vœux en ce début d'année, et je souhaite faire de ce sujet une véritable priorité de nos travaux au cours de l'année 2019. Elle s'inscrit dans une réflexion nationale qui est portée par le gouvernement sur la rénovation de ces dispositifs de MSAP, de ces maisons de service, de cette offre de services publics de proximité à nos concitoyens. Le président de la République s'est exprimé sur le sujet en évoquant des maisons France Service présentes au niveau des cantons, ce qui, vous voyez, déjà nous conduirait à doubler la présence de maisons de service au public par rapport aux 8 actuelles. Quelle qu'en soit la dénomination, des circulaires vont venir préciser la manière dont les choses vont se passer au cours de l'année 2019, et Monsieur Mir, vous nous avez interrogé sur ce sujet ce matin, les moyens que nous mettrons pour en accompagner la mise en place. Toujours est-il que ces MSAP, elles ne doivent pas être, ces maisons de services publics, uniquement inaugurées. C'est beaucoup d'inaugurations en maisons de services publics. Inaugurées, c'est bien, mais il faut qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient efficaces, et il faut qu'elles offrent un service de qualité à nos concitoyens dans les territoires. Il est important que chacune d'entre elles, comme le disait Monsieur le secrétaire général de la préfecture ce matin, offre un panier de services homogène, c'est-à-dire que chaque concitoyen qui s'y présente sache ce qu'il va y trouver et ne pas y trouver. Mais il est peut-être encore plus important que chacune d'entre elles s'adapte. Monsieur le maire de Saint-Lary, vous avez évoqué les initiatives, parfois innovantes, qui existent dans certains territoires. Moi, je souhaite qu'on parte de ces initiatives pour renforcer le maillage, pour offrir des maisons de services publics qui soient efficaces, auditées, dont on connaisse le fonctionnement, qui répondent à des vrais besoins locaux. Si ça doit être un bus des services publics dans une commune et que c'est quelque chose de fixe dans l'autre, peu importe à la limite, il faut y aller et il faut répondre à un besoin. Alors c'est soit les retraites, soit la CAF, soit l'assurance maladie, les droits sociaux, les impôts. Il faut en tout cas partir des besoins locaux et des demandes de nos concitoyens pour construire des solutions ad hoc. C'est possible parce que ce n'est pas consommateur d'énormément de moyens, mais je souhaite en tout cas qu'on avance sur des réponses concrètes dans le territoire sur ce sujet cette année. J'ai demandé au secrétaire général de la préfecture de me présenter des propositions avant la fin du mois de juin. Ces propositions seront établies en lien avec vous et avec le conseil départemental. Et nous vous les présenterons évidemment d'ici à cet été. Je sais bien que il ne s'agit pas que de mettre des points numériques pour répondre aux besoins d'accès aux services publics. Vous avez souligné ce matin le besoin d'accompagnement humain. Nous en avons bien conscience. Et là aussi, il faut que les points d'accès aux services publics ne soient pas que des points numériques sur lesquels on clique, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Tout le monde n'est pas un geek et il faut accompagner l'ensemble des gens du territoire dans ces démarches dématérialisées par ces maisons d'accès aux services publics, si possible, et le cas échéant toujours, avec de la présence humaine et de l'accompagnement personnel. Je vais conclure mon propos en rappelant brièvement deux échéances qui nous attendent au cours des semaines à venir. La première, je l'ai évoqué ce matin, ce sont les élections qui seront un moment test pour notre démocratie, les européennes le 26 mai et les municipales en mars de l'année prochaine. Je veux là encore vous remercier une fois de plus pour votre engagement dans la préparation de ces échéances et la conduite des opérations dont je sais qu'elles mobilisent très fortement vous-même et l'ensemble de vos équipes. La deuxième échéance pour mémoire, c'est l'organisation dans les Hautes-Pyrénées d'un séjour pilote pour le service national universel fin juin. Nous faisons partie des 13 départements dans lesquels ce service national sera mis en œuvre grâce à une mobilisation tout à fait remarquable de l'ensemble des services de l'État, éducation nationale, des DCSPP, des élus, du délégué militaire départemental, de l'ensemble des associations. Le département va accueillir, j'en suis certain, avec succès, une centaine de jeunes filles et de jeunes hommes et sera sous le feu des projecteurs pendant une quinzaine de jours. Je vous remercie encore de votre mobilisation à nos côtés pour réussir ce pari. C'est l'occasion de mieux faire connaître le département. C'est l'occasion aussi pour la centaine de jeunes du département qui partiront ailleurs de vivre une expérience unique de citoyenneté, de cohésion sociale et d'entrer dans une logique d'engagement pour y cultiver les fondamentaux du vivre ensemble. Et puisque l'on parle de cohésion nationale, je pense qu'il est temps, mesdames et messieurs, de donner une suite tant attendue à l'invitation de madame la sénatrice et de monsieur le président, de partager ensemble ce moment si français de vivre ensemble, celui du repas.